Chapitre 2 Vieux journaux. L'aspect de Fitzgeorge Street était froid et sombre, sous un ciel gris du mois de mars, lorsque Sheldon revint à Londres après une absence de 8 jours. Il avait été à Barlingford et avait employé ses quelques jours de congé à revoir ses anciennes connaissances. Le temps avait été déplorable pour les promenades en dog-cart, les grandes courses à cheval où les hommes et les bêtes s'animent, veulent se dépasser. Une bourrasque avait failli renverser Sheldon dans les rues de sa ville natale, et un bon quart d'heure durant l'avait secoué, lui barrant le passage et l'empêchant de frapper à la porte de ses parents. Ce mois de mars avait été particulièrement rude. Il n'était donc pas surprenant, à son retour en ville, que ce voyage n'eût fait aucun bien à Sheldon. « Cette semaine vous a changé, » lui disait la vieille femme du comté d'York, en posant sur la table une côtelette et la tasse de thé avec la théière, le sucre et le lait. Sheldon mangea très vite. Il semblait qu'il eût hâte de se débarrasser de la présence de la vieille ménagère et qu'il fût gêné de la voir le questionner. Elle avait été sa nourrice et, se souvenant des petites tendresses familières de l'enfant nerveux qu'elle avait nourri, elle se laissait souvent aller avec son maître à des façons plus libres que celles des serviteurs, même les plus estimés et les plus anciens. Elle le regardait furtivement pendant qu'il était assis dans un large fauteuil au dossier élevé, fixant d'un air rêveur la flamme du foyer, et elle aurait voulu l'interroger sur son voyage. Mais Sheldon n'était pas un homme à faire ce qu'il avait résolu de ne pas faire, même pour être agréable à sa nourrice. Il était bon maître, payait les gages de ses domestiques très ponctuellement et ne leur donnait pas grand mal. Mais avec lui, il était de notoriété publique que les bavardes perdaient leur temps. Nancy Woolper, soyons polis, Mrs. Woolper, le savait bien et elle en avait parlé à sa voisine, Mrs. Maxon, le soir, lors d'un bout de causette après dîner. On peut vivre des années entières dans un quartier sans savoir ce que sont ses voisins. Mais dans les offices seigneuriaux du West End, aussi bien que dans les plus modestes cuisines des faubourgs, les domestiques des maisons les moins mondaines auront beau faire, ils ne pourront toujours se soustraire à l'offre de quelques politesses faites par les domestiques voisins. « Vous pouvez ôter le couvert, Nancy, » dit à ce moment Sheldon, sortant tout à coup de la rêverie dans laquelle il avait paru absorbé pendant les 10 dernières minutes. « J'ai beaucoup de travail et j'attends Georges dans le courant de la soirée. Rappelez-vous que je n'y suis que pour lui seul. » La vieille rangea sur le plateau la théière et le reste, mais sans cesser de regarder son maître. Il était assis, la tête un peu inclinée, et ses yeux noirs, obstinément fixés sur le foyer, avaient cette lueur intense, particulière, que l'on remarque dans le regard de ceux dont la vue, dépassant l'objet sur lequel elle semble s'attacher, s'en va loin par-delà les choses de la réalité. Nancy observait ainsi son maître très souvent. Elle ne pouvait considérer l'enfant qu'elle avait tenu sur ses genoux comme un homme. L'abîme qui s'ouvrait entre Nancy et la pensée de cet homme déconcertait la pauvre femme. Ce soir-là, elle l'examinait plus attentivement qu'à l'ordinaire, si c'est possible. Car il y avait dans sa physionomie un changement qu'elle cherchait vainement à s'expliquer. Sheldon leva brusquement la tête et vit le regard qui le scrutait. Cela l'impatienta sans doute, car il dit nerveusement « Qu'est-ce que vous regardez, Nancy ?» Ce n'était pas la première fois qu'il avait surpris cette curiosité de la servante et en avait été importuné. Mais Nancy, en femme du Nord qu'elle était, ne se laissait pas décontenancer et avait toujours sur les lèvres une réponse plausible. Elle démontrait à son maître que sa curiosité n'était que la conséquence de l'intérêt qu'elle lui portait. « Je pensais justement, monsieur, » dit-elle, sans baisser ses petits yeux gris, « que si vous n'y êtes pour personne, excepté pour Georges, que faudra-t-il dire si un client nous arrivait ? Il n'y a rien comme ces méchants vents de mars pour provoquer des maux de dents. »« Ah, les vents de mars, pas plus que les pluies d'avril, ne m'amèneront probablement de clients, ni à pied, ni en voiture. Vous devez bien le savoir, Nancy. S'il en venait un, introduisez-le, donnez-lui à lire le Times de la semaine dernière, pendant que je ferai la toilette de mes instruments, voilà. Maintenant, allez. Non, attendez, j'ai quelques nouvelles à vous donner. » Il se leva et se tint le dos tourné au feu, fixant le tapis pendant que Nancy restait près de la table avec son plateau chargé entre ses mains. Son maître ne parla pas pendant quelques minutes, puis il se retourna à moitié, se regardant vaguement dans la glace. « Vous vous rappelez Mrs. Halliday ?» dit-il soudain. « Certainement, monsieur. C'était autrefois Miss Georgina Craddock, Miss Georgie, comme on l'appelait. Vos premières amours. » Je n'ai jamais compris comment elle a pu se décider à épouser ce gros lourdeau de Halliday, à moins qu'elle ne se fût éprise de ses grands yeux ronds et de ses favoris rouges. C'est son père et sa mère qui se sont épris de sa ferme, de ses récoltes et de ses bestiaux. Georgie y a été pour peu de choses. C'est une de ces femmes qui laissent aux autres le soin de penser pour elle. Tom est néanmoins un excellent garçon, et Georgie a eu de la chance de rencontrer un pareil mari. Si je lui ai quelque peu fait la cour autrefois, il y a longtemps que c'était fini lorsqu'elle a épousé Tom. Cela n'a jamais été qu'une amourette, et j'en ai eu dans mon temps avec bien d'autres filles de Barlingford. Vous le savez bien, Nancy. » Sheldon était rarement aussi communicatif avec sa femme de ménage. La bonne femme, satisfaite de la rare condescendance de son maître, eut un gros rire qu'elle accompagna d'un signe de tête. « Je suis allé jusqu'à Highley pendant que j'étais à la maison, » continua Sheldon. Sheldon disait encore « la maison » en parlant de Barlingford, bien qu'il eût rompu tous les liens qui l'y rattachaient. « Et j'ai dîné avec les Halliday. Georgie est aussi jolie que jamais, et tous vont très bien. « Ont-ils des enfants, monsieur ?»« Une fille, » répondit Sheldon avec indifférence. « Elle est en pension à Scarborough, et je ne l'ai pas vue. » J'ai passé une très agréable journée avec les Halliday. Tom a vendu sa ferme. Cette contrée ne lui convient pas à ce qu'il paraît. Elle est trop froide et trop humide pour lui. C'est un de ces hommes gros et gras qui sembleraient pouvoir vous renverser avec leurs petits doigts et qui tremblent aux premiers zéphyrs. Je ne pense pas qu'il fasse de vieux os, Nancy, mais on ne peut là-dessus rien affirmer. Je pense qu'il ira encore bien une dizaine d'années. Je dirais même que je l'espère, dans l'intérêt de Georgie. « Je ne sais pas s'il a eu raison de vendre la ferme de Highley, » observa Nancy. « J'ai entendu dire qu'elle avait les meilleures terres à 40 miles autour de Barlingford. Mais il l'a sans doute vendue très cher. »« Oh oui, il l'a parfaitement bien vendue. Vous savez que lorsqu'un campagnard du Nord trouve l'occasion de gagner de l'argent, il ne la laisse jamais passer. » Nancy reçut ce compliment décoché à ses concitoyens avec un sourire approbatif. Sheldon ne cessait de se regarder dans la glace et arranger ses favoris de l'air d'un homme très absorbé. Maintenant, comme Tom est né pour être fermier et rien que fermier, il faut qu'il trouve une autre terre sous un ciel qui lui sera plus clément. Ses amis lui ont conseillé le Devon ou la Cornouaille. Dans ces régions fortunées, il pourrait faire pousser des myrtes et des roses jusque sous son toit et envoyer des petits pois au marché de Londres jusqu'à la fin de novembre. Il viendra la semaine prochaine à Londres et s'en occupera. Georgie et lui sont deux enfants qui ne sauraient jamais se tirer d'affaire tout seuls, à Londres du moins. Je les ai engagés à descendre ici, leur logement ne leur coûtera rien et nous ferons les autres dépenses en commun, à la mode du comté d'York. Car je ne puis malheureusement prendre à ma charge deux pensionnaires pendant un mois. Pensez-vous que vous serez capable d'assurer le service pour nous tous, Nancy ? Oh oui, je m'en tirerai très bien. Je ne suis pas une paresseuse comme les filles de Londres, qui mettent une demi-heure pour essuyer une tasse à thé. Soyez tranquille, je m'en tirerai. Mr. et Mrs. Halliday occuperont votre chambre, bien sûr. Oui, il faut leur donner la meilleure chambre. Moi, je dors n'importe où. « Maintenant, descendez, Nancy, et pensez à tout cela. Il faut que je travaille. J'ai des lettres à écrire ce soir. » Nancy se retira avec son plateau, flattée, heureuse de la familiarité que lui avait montrée son maître, et enchanté à la pensée que la maison allait être remplie de monde. Ce serait certainement un grand embarras, mais la nature remuante de Nancy souffrait de la vie monotone qui lui était quotidiennement imposée. Elle aspirait à sortir de son train-train ordinaire. Il y aurait aussi le plaisir de secouer un peu la paresse de la fille de Londres. Et la question des petits profits n'était pas à dédaigner. Nancy n'était point sotte. Dans une maison où l'on boit et l'on mange beaucoup, rien n'est plus facile à une ménagère intelligente que de faire son affaire, comme on dit. Pendant ces 4 dernières années, Sheldon avait vécu très simplement, pauvrement presque. Nancy, qui aimait toujours en son maître l'enfant aux yeux noirs qu'elle avait bercé, il y avait 29 ans de cela, l'avait soutenue dans cette voie de privation par son ordre, son économie. Elle s'était montrée honnête, délicate même, allant jusqu'à refuser de petits bénéfices que l'usage l'autorisait à accepter sans scrupule. Mais ce que Nancy avait fait pour son maître, elle n'était pas disposée à le recommencer pour d'autres, pour des gens riches qu'elle n'avait point bercés. Ici, son intégrité cessait d'être excessive. Et elle se mit en tête de faire supporter à Thomas Halliday, pendant son séjour au logis, toutes les dépenses du ménage. Elle trouvait cela juste, toujours à la mode du comté d'York. Pendant que Nancy méditait sur ses devoirs domestiques, le maître de la maison lui aussi méditait, et sur des sujets qui devaient être infiniment plus graves. Il avait pris dans un tiroir un portefeuille de cuir et en avait tiré une liasse de papier. Il ne fit mine d'écrire aucune lettre, quoiqu'il l'eût prétextée, mais les coudes appuyés sur la table. Il mordillait le bout d'un porte-plume en bois qu'il maniait nerveusement entre ses doigts en regardant le mur avec une fixité stupide. Sous la clarté du gaz, son visage semblait fatigué, ses yeux étaient brillants de fièvre. Sheldon était ce qu'on appelle un bel homme. Il avait la régularité fade des têtes en cire qui se voient à la porte des coiffeurs. Oui, ses traits étaient réguliers, son nez d'une belle courbe aquiline, sa bouche ferme et très fendue, son menton et sa mâchoire un peu trop carrés cependant. Son front, où se dessinait assez nettement la bosse de la clairvoyance, ne révélait en somme rien de très supérieur. Le phrénologue qui aurait voulu savoir l'homme qu'était Sheldon ne l'aurait pu en se bornant à l'examiner du regard. Il lui aurait fallu le secours de ses doigts, car une des choses qui frappait le plus chez le dentiste, c'était sa chevelure. Elle était abondante, très soignée, noire comme ses favoris bien taillés, qui attiraient aussi l'attention. Et après les cheveux et les favoris, les dents de Sheldon apparaissaient entre ses lèvres blanches, massives, caractéristiques. C'était une réclame parlante du plus bel effet. Un artiste aurait peut-être jugé les dents trop larges, trop carrées. Était-elle vraiment belle? Généralement, on disait qu'elle semblait mieux faite pour la mâchoire d'un des grands félins qui broient si bien dans les jungles de l'Inde les os des imprudents que pour celle d'un homme. Néanmoins, comme elles étaient d'une blancheur magnifique et que le teint de Sheldon était très foncé, cela offrait un contraste qui n'était pas laid. Sheldon était un homme laborieux, actif et patient. L'oisiveté du rêve lui répugnait. Sa pensée tout entière était au travail. Elle se concentrait sur l'objet qu'elle voulait atteindre avec une force et une souplesse d'une précision extraordinaire, comme mathématique. Les cases de ce cerveau avaient été rangées symétriquement, comme le grand livre d'un commerçant. Ses idées y étaient enregistrées avec tant d'art et de méthode que sur un signe de sa volonté, Sheldon faisait sortir à son heure celle dont il avait besoin. Ce soir-là, il resta plongé dans ses réflexions, jusqu'au moment où il fut interrompu par le bruit d'un double coup de marteau frappé à sa porte. Cette façon de frapper était évidemment familière à son oreille, car il mit de côté son pupitre et se leva sur le tapis du foyer, pour recevoir le visiteur attendu. Une voix d'homme se fit entendre en bas, une voix assez voisine de celle de Sheldon lui-même. Puis un pas vif et ferme résonna dans l'escalier, la porte s'ouvrit et un homme, qui ressemblait beaucoup à Sheldon, entra dans la chambre. C'était George, le frère de Philippe, de 2 ans plus jeune que lui. On n'eût certes pas pris les 2 hommes l'un pour l'autre, mais on voyait tout de suite qu'ils étaient frères. Leurs façons surtout étaient les mêmes. Ils étaient de la même taille, grands et bien conformés. Ils avaient tous deux les yeux noirs et brillants, les favoris et les cheveux noirs, les mains nerveuses, le bout des doigts carrés et le poignet osseux. À première vue, ils pouvaient plaire ou déplaire. Mais quelle qu'eût été la première impression, on ne pouvait s'empêcher, en les examinant, de penser vaguement à ces hommes du Nouveau Monde, solides et agiles, au regard clair, aux manières gracieuses et cassantes, qui conservent en eux je ne sais quoi de menaçant. Ils s'accueillirent par un signe de tête amical. Ils étaient trop pratiques pour se livrer à aucune démonstration d'amitié fraternelle. Ils s'aimaient pourtant, se rendant à l'occasion de mutuels services, et prenaient de temps à autre, rarement, leur plaisir ensemble. Leur amitié allait jusque-là, mais pas au-delà. « Eh bien, Philippe, dit Georges, je suis bien aise de vous voir de retour. Vous avez l'air fatigué, cependant. Vous avez sans doute rendu beaucoup de visites là-bas. »« J'ai bien employé mon temps. J'ai passé une journée chez Halliday. Il s'en va passablement vite. »« murmura Georges. « Il est regrettable qu'il ne s'en aille pas plus vite. Il devrait avaler sa gaffe, afin que vous puissiez épouser Georgie. »« Bah, si Georgie devenait veuve, voudrait-elle de moi ?» dit Philippe de l'air d'un homme qui doute. « Oh, elle ne serait pas longue à se décider. Avant son mariage, elle était très aimable avec vous. Et l'eût-elle oublié, elle n'oserait pas vous refuser si vous la demandiez en mariage. » « Vous savez bien qu'elle a toujours eu un peu peur de vous. »« Je ne sais rien de cela. C'était une assez gentille personne. Mais malgré sa simplicité, elle savait très bien se défendre contre un amoureux pauvre et donner la préférence à un riche. » »« C'était le fait de ses vieux parents. Georgie se serait jeté dans l'huile bouillante si son père et sa mère le lui avaient demandé. Ne vous souvenez-vous pas, lorsque nous étions enfants, à quel point elle avait peur de salir sa robe ?» Je ne crois pas qu'elle ait épousé Tom de meilleur cœur qu'elle allait en pénitence pour avoir taché ses vêtements. Vous souvenez-vous, elle s'en allait dans un coin parce que ses parents le lui ordonnaient, et elle a épousé Tom pour la même raison. Je ne crois pas non plus qu'elle ait été bien heureuse avec lui. « Il n'y a qu'elle qui puisse le savoir, » répondit tristement Philippe. « Ce que je sais, moi, c'est que j'ai grand besoin d'une femme riche. » Car mes affaires vont aussi mal que possible. La pêche n'a pas été bonne, hein ? La vieille douairière n'est pas revenue ? Pas beaucoup de commandes de râteliers à 10 guinées ? J'ai reçu l'année dernière à peu près 70 livres, et mes dépenses sont d'environ 5 livres par semaine. J'ai couvert la différence avec l'argent que j'avais pour m'établir, espérant que je pourrais me soutenir et me constituer une clientèle. Mais la clientèle diminue tous les ans. Je crois que dans le commencement, on est venu à moi à cause de la nouveauté. Mais maintenant, autant vaudrait jeter son argent par la fenêtre que l'employer en circulaire et en annonce. Ainsi, une femme jeune, avec 20 000 livres et une mâchoire à remettre en état, ne s'est pas encore présentée. Non, ni une vieille non plus. Je ne regarderai pas à l'âge si elle avait de l'argent, renchérit Philippe avec amertume. Georges leva les épaules et plongea ses mains dans les poches de son pantalon, avec un geste de désespoir tout à fait cocasse. Il était le plus jeune des deux et affectait dans son costume, ses manières et son langage un certain air de maquignon fort différent de la tenue et de la mise étudiée de son frère. Ses vêtements étaient amples et empestaient toujours le tabac. Il portait des bijoux, des breloques, des boutons de chemise, des épingles, des chaînes pendantes et des trousseaux de clés de montre. Ses favoris étaient plus épais que ceux de son frère, et il portait des moustaches, une belle paire de moustaches touffues, crânement retroussées, qui sieraient mieux sous le nez d'un capitaine de guérilla que sous celui d'un paisible citadin. Sa situation comme avocat n'était guère meilleure que celle de son frère comme dentiste. Mais il avait ses plans pour arriver à la fortune. Il s'était mis à la poursuite des généalogies, à la recherche des faits oubliés, des moyens de renouer des anneaux rompus. C'était une sorte de résurrectionniste légal, un piocheur dans les cendres et la poussière du passé. Il croyait qu'avec le temps, il découvrirait un trésor qui le dédommagerait du travail et de la patience qu'il aurait déployé la moitié de sa vie. « Je puis me résigner à attendre ma bonne chance jusqu'à l'âge de 40 ans, disait-il quelquefois à son frère dans ses moments d'expansion. « Il me resterait encore 10 ans pour en jouir, et 20 de plus pour nous offrir de bons dîners, boire du bon vin, et déblatérer à la manière des vieux contre la décadence de toute chose. » Il se tenait debout des deux côtés de la cheminée. Georges regardait son frère, pendant que Philippe fixait sur le foyer ses yeux couverts par ses lourds sourcils. Le feu était presque éteint. Georges se baissa et se mit à l'activer nerveusement. « S'il est quelque chose que je haïsse par-dessus tout, c'est un feu qui s'éteint. Comment va-t-on à Barlingford ? On y est aussi gai que par le passé, je suppose. Plus gai que lorsque nous l'avons quitté. Les choses ont mal tourné pour moi à Londres, et au milieu de mes tracas, j'ai été plus d'une fois tenté d'en finir avec un coup de rasoir ou quelques gouttes d'acide prussique. Et lorsque j'ai revu ces rues froides et tristes, ces noires maisons, la place du marché déserte, l'église Saint-Jean-Baptiste avec ses pierres massives, et entendu le monotone ding-dong des cloches sonnant pour les prières du soir, je me suis demandé comment j'avais jamais pu vivre une semaine dans un endroit pareil. J'aimerais mieux balayer les rues à Londres que d'habiter la plus riche maison de Barlingford, ainsi que je l'ai dit à Halliday. « Et Tom va venir à Londres, si j'ai bien compris votre lettre. »« Oui, il a vendu Highley. Il désire trouver un autre domaine dans l'ouest de l'Angleterre. »« Lui et Georgie vont venir passer quelques semaines à Londres, et je les ai engagés à loger ici. »« Autant utiliser cette maison de cette façon, car vraiment, elle ne vaut pas cher au point de vue professionnel. »« Je ne comprends pas votre but. »« Je n'ai aucun but particulier. » Tom est un bon garçon et sa société vaudra mieux que la solitude d'une maison vide. La visite ne me coûtera rien, Halliday supportera sa part de la dépense. À la bonne heure, cela pourra avoir au moins un résultat, répliqua Georges, qui considérait que toute action de la vie humaine doit être calculée de manière à produire un résultat. Mais je crains que vous ne soyez bientôt fatigué de cet arrangement. Tom est un bon garçon à sa manière et un de mes amis, mais ce n'est en somme qu'un cerveau vide. La conversation changea de sujet, et les deux frères se mirent à parler de Barlingford et de ses habitants, et de quelques parents qui leur restaient, et ils parlèrent aussi de leurs anciens camarades d'enfance. Le dentiste prit dans le buffet une bouteille entamée de whisky pour son frère et pour lui, mais la conversation n'en continua pas moins. Philippe était triste et distrait, et répondait seulement de temps à autre. Il finit même par déclarer qu'il était harassé. « Ah, ce n'est pas une plaisanterie que de venir de Barlingford par un train à petite vitesse, et je ne pouvais me permettre l'express, » expliqua-t-il en réponse à son frère qui lui reprochait sa distraction. « Alors, je pense que vous ferez bien de vous mettre au lit, » reprit Georges, qui avait fumé 2 cigares et bu la bouteille de whisky avec de l'eau chaude et du sucre. « Je m'en vais, je vous ai dit en arrivant combien vous me paraissiez fatigué. Quand attendez-vous Tom et sa femme ?» Au début de la semaine prochaine. Si tôt que cela. Allons, bonsoir. Je vous reverrai certainement avant qu'ils arrivent. Venez jusque chez moi demain soir. J'ai une affaire qui m'occupe beaucoup en ce moment. Toujours vos mêmes travaux. Toujours, il n'en vient pas beaucoup d'autres. J'ai bien peur que vous ne tiriez jamais grand profit de celui-là. Un joueur de whist a souvent bien des mauvaises cartes avant qu'il ne tombe sur une série d'atouts, répondit Georges. « Mais les atouts finissent toujours par venir s'il a la patience de les attendre. Tout homme a sa chance, Philippe. Il ne faut que savoir la saisir. Mais beaucoup d'hommes se découragent et s'endorment avant que leur chance arrive. J'ai déjà dépensé bien du temps et du travail en pure perte, mais les atouts sont dans le jeu et il faudra bien qu'ils en sortent, tôt ou tard. » Georges fit un geste d'adieu et se retira, et tout en s'en allant, il sifflait gaiement. Philippe l'entendit et tourna sa chaise vers le feu avec un geste d'impatience. « Vous pouvez être très savant, mon cher Georges, se dit le dentiste, mais vous ne ferez jamais fortune à lire des testaments et à feuilleter des registres de paroisse pour rechercher des héritiers légitimes. Il n'est nullement probable qu'une somme un peu ronde attende qu'on vienne la chercher quand tous ceux qui peuvent alléguer le plus léger prétexte pour s'en emparer sont encore au monde. Non, non, mon garçon, croyez-moi, il faudra que vous trouviez un meilleur moyen pour vous enrichir. » Le feu avait baissé de nouveau, et Sheldon demeurait mélancoliquement assis devant les charbons noircis. L'état de ses affaires était fort mauvais, plus mauvais qu'il n'avait osé le confesser à son frère. Les voisins et les passants qui enviaient sa brillante demeure ne soupçonnaient pas que le maître de la maison était entre les mains des usuriers, et que la pierre à frotter qui servait à blanchir les marches de sa porte était payée par les trésoriers d'Israël. La philosophie de Philippe était toute mondaine. Il savait que le soldat de fortune qui veut remporter la victoire dans la grande bataille de la vie doit tenir son harnais en bon état et cacher ses blessures sous l'éclat de sa cuirasse, de ses armes et de ses galons. L'habile Sheldon ne voyait pas d'autre chance de salut que de laisser les restes de son échec à un confrère qui les paierait plus qu'il ne valait. C'était dans ce but qu'il conservait intacte la blancheur de ses rideaux de mousseline et entretenait une sorte de pratique et cette apparence d'honorabilité qui est en elle-même une sorte de capital. C'était certainement une rude besogne que de défendre la forteresse contre les assauts de la misère. Mais le dentiste luttait avec opiniâtreté, attendant d'un jour à l'autre la victime que le sort lui devait. Il avait tendu des filets en divers endroits pour attraper l'innocent poisson et son petit capital. Plusieurs fois, il avait cru réussir. Mais capital et poisson s'étaient contentés de rôder autour du filet sans y entrer. Du reste, il n'avait jamais parlé de céder son fond. Il attendait les propositions et les provoquait sournoisement. Toutes les 24 heures, l'échéance des billets déjà renouvelés lui apparaissait terrible, implacable. Philippe se sentait tomber graduellement dans les profondeurs douloureuses où le démon de l'insolvabilité tient sa cour et rend ses arrêts. Son capital épuisé et les affaires de son état allant de mal en pis, il avait été obligé d'emprunter. Ses prêteurs s'étaient lassés, la chaise sur laquelle il était assis, le tisonnier avec lequel il arrangeait le feu, ne lui appartenaient pas. Un jugement obtenu par un des juifs, ses créanciers, autorisait celui-ci à faire vendre ses meubles. Et en rentrant chez lui, il pouvait trouver placardé sur son mur l'affiche du commissaire priseur et son commis occupé à dresser l'inventaire de son mobilier. Le feu s'éteignit tout à fait, les horloges sonnèrent minuit. Philippe réfléchissait à l'avenir devant les cendres encore tièdes de la cheminée. Les domestiques s'étaient retirés à 11 heures, après avoir poussé les lourds verrous de la porte d'entrée, ce qui était bien inutile. Un silence mortel emplit la maison. Sheldon entendait, avec une netteté qui l'irritait, les voix des passants attardés et les miaulements des chats du voisinage. Un meuble en acajou dans un coin fit entendre un craquement étrange, long et sinistre. Philippe n'y prit pas garde. Il n'était point superstitieux. Son esprit froid ne se laissait pas distraire par les choses surnaturelles. Il était de ceux qui pensent qu'avec un crayon et un bout de papier, on peut mettre en formule très nette les problèmes les moins accessibles à l'homme. « Je ferais mieux de lire l'exposé de cette affaire avant qu'ils arrivent, » dit-il, ayant probablement épuisé le sujet de ses réflexions. « Il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci pour agir à ma guise. » Le jour, on ne sait jamais si l'on n'est pas épié et espionné. Il regarda sa montre, puis alla à une armoire où il prit de petits fagots, des allumettes et de vieux journaux. Parfois, il allumait son feu lui-même, et notamment lorsqu'il voulait, la nuit, travailler plus longtemps que de coutume, ou le matin de bonne heure. Puis il prit son bougeoir et descendit l'escalier qui conduisait à la pièce où il arrachait avec des pinces les dents de ses semblables. La grande chaise garnie de crins, éclairée par la pâle lumière du bougeoir, avait comme une apparence fantastique. L'imagination d'une personne plus impressionnable eût pu la croire occupée par le fantôme d'un patient expiré sous les tenailles de Sheldon. Il alluma le gaz d'un bec mobile qu'il avait l'habitude d'enfoncer presque dans la bouche des clients qui venaient le soir. De chaque côté de la cheminée se trouvaient des armoires qui servaient de bibliothèque. Les livres n'avaient pas une grande valeur, néanmoins les armoires étaient constamment fermées. Sheldon prit une clé dans la poche de son gilet, puis, ayant ouvert la bibliothèque, il en tira une pile de livres très pesants. C'étaient des volumes reliés du journal The Lancet. C'était un véritable fardeau, et je ne crois pas que le dentiste aurait pu supporter un poids plus considérable. Il s'y prit très adroitement, disposa de son mieux entre ses bras les lourds volumes et remonta dans sa chambre. Il s'assit, jeta autour de lui un regard rapide, ouvrit un des livres, un autre, un troisième. Il s'arrêtait, lisait un article d'un bout à l'autre avec un redoublement d'attention ou bien quelques lignes, prenant des notes sur un petit carnet. Il était encore là, écrivassant, courbé sur sa table, quand les horloges voisines jetèrent une à une trois coups distincts qui tombèrent dans la nuit.